Histoire de la Réformation en Europe au temps de Calvin, livre 3, chapitre 15. Le pardon de Rome et le pardon du ciel, juin et juillet 1532. Les jubilés romains, fermentation à Genève, un pouvoir qui dévore tout ce qu'on lui donne, le pardon évangélique de tous les péchés. Tumulte autour des placards, bataille dans la ville, intervention catholique de Fribourg. Le conseil cherche à le satisfaire. Réaction des évangéliques. Ordre de prêcher sans fable. Le nonce est l'archevêque à Chambéry. Joie des évangéliques du dehors. Le petit troupeau de Payerne. Les gardes-enseigne des trésors de Christ. L'étendard arboré dans Genève. Genève attaquée par les deux parties. Lequel l'emportera? L'action devient toujours plus chaude. Les choses fortes du monde abolies par les faibles. Les enseignements d'Olivetan n'avaient pas été inutiles. Il y eut bientôt dans Genève une manifestation évangélique qui fut un pas important et le premier acte public de réformation. Si le cousin de Calvin en fut peut-être la cause, Clément VII en fut le provocateur. Le pape s'apprêtait alors à publier non plus un pardon local comme celui de Sainte-Claire, mais un jubilé universel. On en parlait beaucoup en divers lieux, et quelques-uns racontaient l'origine de ces jubilés. La veille du jour où l'an 1300 commençait, disait un érudit malin, le bruit se répandit tout à coup dans Rome, on ne sait comment, qu'une indulgence plénière serait donnée à tous ceux qui se rendraient le lendemain dans l'église de Saint-Pierre. Il y vint une grande foule de Romains et d'étrangers. Au milieu de cette multitude se trouvait un vieillard qui, le dos courbé et appuyé sur son bâton, voulait aussi prendre part à la fête. Il a 107 ans, assurait-on autour de lui. On l'amena au pape, le fier et hardi Boniface VIII. Le vieillard lui raconta comment, un siècle auparavant, on avait gagné à l'occasion du jubilé une indulgence de 100 années. Il s'en souvenait, disait-il. Boniface, s'appuyant sur la déclaration de cet homme dont l'esprit était affaibli par l'âge, arrêta qu'il y aurait tous les 100 ans indulgence plénière. Le grand profit qui en revenait fit placer ce jubilé successivement tous les 50 ans, 33 ans, 25 ans, mais le chiffre 25 n'empêchait pas toujours le chiffre 33. Quoi qu'il en soit, on parlait déjà beaucoup dans Genève d'un futur jubilé. Olivetan et ses amis en étaient scandalisés. L'âme de cet homme juste et droit était affligée de voir substituer au pardon de Dieu une fête d'invention humaine où, pour gagner la rémission de ses fautes, il fallait fréquenter les églises pendant un certain nombre de jours, y faire certaines œuvres, et dont l'effet le plus sûr était d'être pour les papes une source abondante de revenus. Le maître d'école assurait que si quelqu'un voulait chercher dans de telles inventions le repos de sa conscience, il perdait son temps, que son cœur serait assoupi dans l'oubli de Dieu ou tout plein de tremblements et de craintes jusqu'à ce qu'il eût trouvé son repos en Jésus-Christ. « Christ seul est notre paix, disait-il, et donne seul à notre conscience la certitude que Dieu est réconcilié et apaisé envers elle. » Les esprits furent bientôt à Genève dans une grande fermentation. On s'abordait, on s'assemblait dans les rues, et partout il y avait une explosion de murmures. « Beau tarif que celui du pape, disaient les plus décidés huguenots. Voulez-vous une indulgence pour un faux serment? Donnez 29 livres 5 sous. Voulez-vous une indulgence pour meurtre? Oh, la vie de l'homme est meilleur marché. Un meurtre ne vous coûtera que 15 livres 2 sous 6 deniers. » Ils ajoutaient que le prétendu trésor des indulgences, où le pape puisait la marchandise qu'il vendait à tout venant, était une invention diabolique. Ainsi, le peuple chrétien que des siècles antérieurs avait supprimé se reformait dans l'Église. L'esprit laïque se manifestait dans Genève. Baudichon de la Maisonneuve, l'un des plus déterminés huguenots, avait de fréquents entretiens avec d'autres bons luthériens et tous se plaignaient de l'esprit de domination du clergé qui avait tout accaparé. Au reste, ces plaintes étaient universelles dans toute la chrétienté. Dès les premiers siècles, disait-on, les prêtres se sont mis à confisquer les droits des laïcs, et bientôt ces bergers n'ont plus sous leur houlette que des moutons. Mais tandis que les prêtres étaient tout occupés de cette œuvre, une autre s'accomplissait derrière eux sans qu'ils s'en aperçussent. Les évêques faisaient aux prêtres ce que les prêtres avaient fait aux laïcs, et quand les fonctionnaires inférieurs de l'Église eurent achevé de prendre leurs ouailles dans leurs trébuchets, il se trouva que les évêques les avaient attrapés dans le leur. Au concile de Cologne, en 346, il y avait encore, outre 14 évêques, 10 prêtres, presbytères ou anciens. Mais alors ce fut fini. Au concile de Poitiers, de Vaison, de Paris, de Valence, tous dans la seconde moitié du IVe siècle, il n'y a plus que des évêques. Plus tard, il est vrai, il se trouvait dans 3 conciles un prêtre délégué, mais finalement le prêtre unique fut poliment congédié. Tandis que les évêques étaient tout occupés de cette conquête, une autre s'accomplissait et ils avaient à peine confisqué les droits des prêtres, comme les prêtres ceux des laïcs, qu'ils se trouvèrent eux-mêmes confisqués par le pape. Tous les droits ont fini. Fidèles, prêtres, évêques ont perdu leur liberté. L'Église, c'est le pape. Un monstre a englouti l'autre pour être ensuite englouti à son tour. Rien de plus triste, rien de plus malfaisant que cette tragique histoire. Quod des devorat, le hiérarchisme romain dévore tout ce qu'on lui donne. La société cléricale ayant fait ainsi disparaître la société chrétienne, la Réformation devait la rétablir. C'était ce qui arrivait alors à Genève. Les droits des chrétiens furent l'une des premières réclamations que firent entendre ces jeunes voix, si épris de leurs droits de citoyens. « Si le pape vend des indulgences, dirent-ils, l'Évangile donne un pardon gratuit. Puisque Rome affiche sa grâce, affichons-nous celle du Seigneur. » Ces jeunes voix, qui étaient au nombre des auditeurs d'Olivetan, rédigèrent ensemble la proclamation céleste dans des termes simples et évangéliques. Il est probable que ce fut Olivetan lui-même qui la composa. Bourdichon de la Maisonneuve prit le papier et courut chez un imprimeur auquel il commanda des placards en gros caractères. Après cela, quelques huguenots, parmi lesquels de la Maisonneuve et Goulaz étaient les plus zélés, s'entendirent et le 9 juin, de grand matin, ils affichèrent sur tous les murs dans les divers quartiers de la ville le grand pardon général de Jésus-Christ, à une bonne hauteur en sorte que chacun put aisément le lire. Il y avait alors devant Saint-Pierre un certain pilier qui servait aux affiches cléricales. Goulaz s'approcha et, sur l'une des annonces du jubilé romain, il appliqua la proclamation du pardon évangélique. Le soleil s'était levé au-dessus des Alpes. Il était déjà grand jour. Toute la ville était réveillée, les fenêtres et les portes des maisons s'ouvraient et les habitants commençaient à circuler dans les rues. Il regarde, il s'approche, il s'arrête étonné devant ces proclamations. Hommes, femmes, prêtres, moines se groupent devant les pancartes et lisent, ébahis, ces paroles qui leur semblent fort étranges. Dieu, notre Père céleste, promet le pardon général de tous ses péchés à quiconque a une repentance sincère et une foi vive à la mort et aux promesses de Jésus-Christ. Vraiment, disaient quelques huguenots, ceci ne peut être une indulgence papale, car il n'y est pas question de pécune. Un salut donné gratuitement doit certainement venir du ciel. Mais les prêtres pensaient autrement. Ils voyaient dans cette affiche une insulte au pardon du pape et leur colère ne cessait de s'accroître. Ils apostrophaient ce qu'ils croyaient les auteurs du placard. Ils les accablaient d'injures et, se jetant sur eux, les frappaient du poing et même avec des armes dont ils s'étaient munis. Le clergé en fit beaucoup de bruit, dit le pseudo Bonivard, et les prêtres, voulant arracher les 10 placards, les fidèles qu'ils nommaient luthériens, se découvrirent pour les empêcher, ce qui causa une grande émotion parmi le peuple. Bientôt, en effet, les partis s'organisèrent. Des groupes se formèrent. D'un côté, les citoyens qui défendaient les placards, de l'autre, les prêtres et leurs troupes qui voulaient les déchirer. Un chanoine fribourgeois de naissance, nommé Wernli, était resté à Genève. C'était un homme vigoureux, d'un caractère emporté, papiste fanatique, qui maniait l'épée aussi bien que l'encensoir et appliquait un soufflet aussi lestement qu'il donnait de l'eau bénite. Ayant entendu le tumulte, il sortit de sa maison, se dirigea vers la cathédrale, et au moment où il allait y entrer, il remarqua le placard que Goulaz avait collé sur le pilier de l'église. Il s'emporta, il court au papier et l'arrache avec de grosses malédictions. Goulaz, un de ces esprits hardis qui bravent ceux qu'ils méprisent, se tenait tout près de là et observait ce qui se passait. Voyant l'acte du chanoine, il s'approche et met tranquillement un autre papier à la place de celui que Wernli venait d'arracher. À cette vue, Le feu monte à la tête du violent fribourgeois. Ce n'est plus au papier qu'il en veut, c'est à l'hérétique. Il se jette sur Goulaz et lui donne un rude soufflet. Puis, ne se contentant pas de cette correction, il tire l'épée, car les chanoines en portaient alors, et se met en mesure de le frapper. Goulaz n'avait pas l'humeur endurante. Aussi voyant le chanoine l'épée au poing, il tire la sienne, se met sur la défensive, croise le fer et blesse Verny au bras. Alors s'élève un grand tumulte. Les partisans des prêtres se jettent sur le téméraire qui a osé se défendre contre ce saint homme. Les huguenots de leur côté se rangent autour de Goulaz et le défendent. Une bataille entre le prêtre et le laïc, une lutte entre la société cléricale et la société séculière se livre alors dans Genève. Les prêtres avaient décidé que les placards seraient partout arrachés. Aussi on entendait des cris, des cliquetis d'épées, un grand bruit de discorde et de bataille, non seulement devant le porche de Saint-Pierre, mais dans les rues environnantes et presque dans toute la ville. On ne voyait, dit-on, que rixes, conflits, épées dégainées. Deux hommes du parti des prêtres furent blessés au bourg de Four. Les magistrats instruits de ce qui se passait accoururent et séparèrent enfin les combattants. Goulaz, sans doute, ne représentait pas la réforme. Il n'était qu'un patriote genevois, un peu vif, mais l'Église romaine ne pouvait renier un chanoine. Il était bien son représentant. Aussi, l'on se demandait si elle prétendait combattre l'Évangile par des soufflets et des coups d'épée. Pendant cette rude escarmouche entre les ultramontains et les huguenots, un seul parti s'était tenu à l'écart et se réjouissait tout bas. C'étaient les partisans de Savoie. Ils pensaient que, puisque les deux partis genevois se battaient entre eux, on les verrait fatigués des discordes civiles, plier les uns et les autres le genou sous l'empire du gouvernement absolu de son Altesse Sérénissime. La division ferait leur force. La nouvelle de cette bataille arriva bientôt à Fribourg. Déjà, on y avait parlé d'un certain maître d'école qui prêchait l'Évangile à Genève, et l'affiche qui avait remué toute la ville était, pensait-on, le résultat de ses prédications. Fribourg fut ému, car il y avait eu dans cette affaire non seulement un coup porté à un fribourgeois, mais ce qui était plus alarmant encore, un coup porté à la papauté. Le 24 juin, le conseiller Laurent Brandebourg arriva à Genève, et ayant été admis devant le conseil, il se plaignit au nom de ce canton catholique de ce qui s'était passé et surtout des livres et placards qui induisaient à la nouvelle loi et jetaient du mépris sur l'autorité de l'évêque et du pape. « De tous côtés, dit-il, on nous assure que vous êtes de la loi luthérienne. S'il en est ainsi, messieurs, nous déchirerons les lettres de l'Alliance et nous en jetterons les morceaux à vos pieds. » Ces paroles, accompagnées d'un geste énergique, effrayèrent le conseil. Jamais, se disait-il, les syndics, l'Alliance de Fribourg, ne nous a été plus nécessaire. Il y avait encore, parmi les genevois, beaucoup de zélés catholiques romains. Les évangéliques n'étaient guère que des exceptions. Un bon nombre, nous l'avons dit, se trouvait dans un certain milieu négatif. La menace de Fribourg troubla les magistrats. « Nous ne sommes point luthériens, » répondit le premier syndic. « Eh bien, » reprit le catholique Brandebourg, « citez Goulaz devant la cour ecclésiastique. » Le conseil répondit que les grands pardons avaient été placardés à son insu, qu'il désapprouvait cette licence, que Goulaz n'avait frappé le chanoine qu'à son corps défendant, après avoir reçu de lui un soufflet et lui avoir vu tirer contre lui l'épée, et que, néanmoins, il avait été mis à l'amende. Le conseil ajouta qu'il ferait encore plus pour satisfaire Fribourg, et aussitôt il fit défendre à son de trompe d'afficher aucun écrit sans permission. Puis, comme les prêtres criaient encore plus fort contre Olivetan que contre Goulaz, les syndics ordonnèrent que, pour le présent, le maître des écoles cesserait de prêcher l'Évangile. On crut avoir ainsi coupé le mal par la racine. Le parti ultramontain, ravi de ce triomphe, pensa le moment arrivé pour opérer une complète réaction. Les prêtres commencèrent la chasse aux Saintes Écritures, visitant les familles et exigeant qu'on leur remît les Nouveaux Testaments. Les murmures éclatèrent. « On veut, dirent les huguenots, nous ôter l'Évangile de Jésus-Christ, et à la place, on nous donnera quoi ? La fable romaine. Il nous faudra lire de nouveau les contes de la légende dorée. Certes, c'est bien assez de les entendre à l'église. » Boudichon de la Maisonneuve et ses amis pressèrent le conseil de se montrer chrétien. Ils lui représentèrent que c'était une honte de voir les prêtres et les moines faire si peu de cas des évangiles et des épîtres et remplir les oreilles des auditeurs d'inventions humaines. Olivetan leur avait souvent répété qu'il ne s'agissait pas d'introduire une nouvelle religion, mais de rétablir l'ancienne, celle des apôtres. cette idée si simple et si vraie était facilement reçue. Le triomphe que les prêtres avaient rêvé se transforma en un triomphe de l'Évangile. Le parti des luthériens, dit un ancien manuscrit, ou comme il se nommait, des évangéliques, devint tous les jours plus nombreux et plus fort parmi les magistrats et le peuple. Les amis de la Réformation qui se trouvaient dans le Conseil commencèrent à parler courageusement des droits de la parole de Dieu. Ceux des conseillers qui n'étaient pas luthériens étaient en général des hommes honnêtes, qui trouvaient très chrétiens et même très catholiques qu'on prêchât l'Évangile et non la légende. Ils ne voulaient pas qu'il fût dit que l'Église à laquelle ils appartenaient s'appuya sur des visions et des faux miracles. Aussi le Conseil ordonna, à ce qu'il semble à l'unanimité, au grand vicaire de Gingin, de Beaumont, de faire en sorte que dans toutes les paroisses et dans tous les couvents, on prêchât l'Évangile selon la vérité, sans y mêler aucune fable et aucune invention humaine. Les évangéliques, à leur tour, triomphaient de cette ordonnance. Ils savaient que, dans l'intention du magistrat, elle n'avait pas pour but d'abolir le culte romain. Toutefois, elle était le premier acte officiel fait à Genève, dans un sens favorable à la Réformation. Aussi entourèrent-ils de leur respect les syndics sous lesquels cet arrêté fut pris. C'était Guillaume Hugues, frère de Besançon, Claude Savoie, homme d'une grande énergie, Ami Poral, plein d'esprit et d'intelligence, déjà gagné à l'Évangile, et Claude Dumollard. On ne pensait pas de même au dehors. Les prédications qui se faisaient dans les maisons de Genève, l'abominable hérésie luthérienne qui était enseignée jusque dans les écoles, avait causé une vive alarme dans les provinces catholiques voisines de cette ville. La proclamation du grand pardon général de Jésus-Christ l'augmenta. À Chambéry, les esprits étaient fort agités. Les uns, hors d'eux-mêmes, eussent voulu que les foudres du ciel fussent lancées contre Genève. Les autres, plus miséricordieux, peut-être plus prudents, voulaient conjurer les Genevois, même avec larmes, de rester fidèles à la papauté. Il y avait alors à l'évêché de Chambéry un grand concours de prêtres. Un nonce du pape se trouvait en passage dans cette ville et l'archevêque, le nonce et ceux qui les entouraient s'entretenaient de Genève en en déplorant tout à l'envie l'apostasie. Le nonce romain, violent, voulait immédiatement porter les faits à la connaissance du pape afin que la cour de Rome procédât selon la rigueur des lois ecclésiastiques. L'archevêque l'arrêta. Il préférait d'abord une démarche auprès du conseil. En effet, il écrivit au syndic une lettre dans laquelle, après avoir articulé les rapports divers à la charge des Genevois, il ajoutait « Sera-t-il vrai que de tels faits se passent dans une ville renommée de toute antiquité pour sa foi ? Ce serait si grave que nous devrions incessamment les porter à Rome. Mettez-vous à même de dire au Saint-Père que vous conserverez une foi perpétuelle envers le Saint-Siège apostolique. » Les syndics, qui ne voulaient se prononcer ni pour Rome ni pour Wittenberg, furent dans un grand embarras. L'un d'eux pourtant trouva le moyen d'en sortir. « Ne répondons rien, » dit-il. En effet, le messager de l'archevêque étant venu chercher sa réponse, les syndics le firent entrer et se contentèrent de lui donner de bouche ce message. « Dites à mon Seigneur que nous voulons vivre chrétiennement et selon la loi de Jésus-Christ. » L'archevêque, le nonce et le pape pouvaient entendre cela comme il leur plairait. On vit bientôt que Rome et la Savoie ne se souciaient nullement de laisser vivre Genève selon la loi de Jésus-Christ qu'il invoquait. Mais si la papauté s'inquiétait, les chrétiens évangéliques se réjouissaient. Ils croyaient qu'une position importante était conquise par la Réformation, et supposant les Genevois plus avancés dans la foi qu'ils ne l'étaient en réalité, ils triomphaient à l'avance des victoires que ces nouveaux membres du corps évangélique feraient remporter à l'étendard commun. Les Genevois, disait l'un, sont de vrais chevaliers chrétiens qui, n'ayant point égard aux hommes transitoires, ne craignent pas de déplaire à leurs supérieurs, ennemis de la vérité. Les Genevois, disait un autre, sont des hommes énergiques. S'ils embrassent l'Évangile, ils sauront le répandre ailleurs. Les anciens évangéliques firent davantage. Ils se sentirent pleins d'amour pour les évangéliques nouveaux. Ils voulaient leur souhaiter la bienvenue, leur tendre une main fraternelle, les recevoir avec la charité de Christ dans cette humble et petite église qui devait croître d'année en année et de siècle en siècle. De plus, leur illusion n'était pourtant pas complète. Ils connaissaient l'état moral des Genevois. Ils savaient que le petit troupeau était faible encore, qu'il commençait à peine à balbutier le nom de Jésus-Christ et à marcher dans sa voie. Ces vieux chrétiens voulaient donc s'approcher de lui comme un père de son enfant, le prendre par la main, lui montrer les dangers qui l'entouraient, le conjurer de demeurer ferme et de croître dans cette foi qu'il commençait à confesser avec courage. Entre les Alpes et le Jura, entre Lausanne et Berne, se trouve une petite ville formée il y a bien des siècles autour d'une abbaye que la fameuse reine Berthe avait déclarée franche de toute domination, même de celle du pape, et qui, en 1208, avait résisté à l'empereur Rodolphe de Habsbourg. Dans une maison de cette ville, Payerne, se trouvaient réunis en juillet 1532 de pieux chrétiens avec leur pasteur Antoine Saunier de Moirans en Dauphiné, ami de Farel. Ils s'entretenaient de la destruction du royaume papistique, des nouvelles qu'ils recevaient de Genève, et ils étaient pleins de l'espoir que cette cité contribuerait bientôt à cette destruction tant désirée. L'un d'eux proposa d'adresser une lettre aux Genevois. On se mit aussitôt à l'écrire, et voici les paroles que ces simples chrétiens envoyèrent à la cité épiscopale. « Nous avons entendu que le Dieu de gloire vous a visité de sa grâce, comme ses enfants élus, et que maintenant il vous appelle de sa voix éternellement salutaire. Bien-aimés en Jésus-Christ, recevez la parole du grand pasteur qui s'est donné une seule fois et s'est sacrifié à l'hostie vivante pour le salut de tout croyant. Dieu vous manifeste les grandes richesses de sa gloire. Il nous invite à délaisser les doctrines des hommes et à prendre celles de notre seul Sauveur, Jésus-Christ, laquelle fait de nous de nouvelles créatures et des héritiers du royaume de Dieu. Croyez à cette doctrine de bon cœur, sans honte ni crainte des hommes, ayant l'assurance qu'elle est bonne, sainte, seule salutaire, et que toutes les autres qui lui sont opposées sont méchantes et condamnables. N'ayez point crainte du grand nombre et de la puissance de vos ennemis, mais pour l'amour de Jésus-Christ, qui a accompli votre rédemption et qui nous donne la rémission de tous nos péchés, soyez prêts à abandonner non seulement vos honneurs, vos biens, vos parents, mais encore à renoncer à vous-même, déclarant avec le bon saint Paul que ni la gloire, ni la tribulation, ni la mort, ni la vie ne nous sépareront de l'évangile du salut. Or donc, nous, vos frères, en la génération seconde et spirituelle, nous prions le Père de gloire d'achever ce qu'il a commencé en vous et d'éclairer les yeux de votre cœur par la vraie lumière évangélique, afin que vous puissiez connaître les grandes et inexprimables richesses préparées à tous ceux qui sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Renoncez donc aux princes de ce monde et à tous ses satellites, sous la bannière desquels vous et nous avons cheminé, et reconnaissez notre Seigneur pour seul Maître, seul Dieu et seul Sauveur, qui donne le royaume des cieux pour rien. Suivez non ce qui vous semble beau et bon, mais uniquement le commandement de Dieu, notre bon Père, n'y ajoutant rien, n'en retranchant rien. Que sa grâce soit écrite en vos cœurs et que vous la distribuiez à ceux qui sont encore ignorants et infirmes par une douce et aimable instruction, en sorte que le troupeau de Jésus-Christ soit journellement augmenté par vous. Notre Seigneur Dieu est pour vous, lui contre lequel le monde entier ne peut rien. Soyez les gardes-enseignes sur la terre des trésors de notre Sauveur et que par votre moyen, le Saint-Évangile soit manifesté en plusieurs pays. Le conseil déposa l'épître dans les archives de la ville où elle se trouve encore aujourd'hui. Genève était encore loin du christianisme pur et vivant que cette lettre respire. Le combat entre Goulaz et Wernli, le tumulte dont fut accompagné dans toute la ville, la publication faite par Baudichon de la Maisonneuve et ses amis, ressemblait peu, l'impartialité nous fait un devoir de le reconnaître, au tableau plein de douceur que Jésus-Christ nous trace quand il dit du serviteur de Dieu « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. » Mais ce n'est que peu à peu que le vieil homme s'efface et que le nouvel homme paraît. C'eût été trop peut-être que de s'attendre à ce que ces énergiques huguenots qui défendaient leur liberté avec le courage des lions devinssent tout à coup des agneaux. Mais déjà alors, il y avait dans cette ville des âmes qui estimaient par-dessus toute chose le grand pardon de Jésus-Christ. Cette proclamation du salut gratuit que nous avons racontée signale une époque importante dans l'histoire de la Réformation de Genève. Toutes les religions humaines attribuent aux hommes, à leurs œuvres, à leurs pratiques, l'acquisition du salut. La religion divine seule, c'est-à-dire l'Évangile, déclare que Dieu le donne, qu'il le donne en Jésus-Christ, et que quiconque en reçoit l'assurance en son cœur devient une nouvelle créature. Tel fut l'étendard arboré dans Genève en 1532. Des serviteurs de Dieu, recueillis ou nés dans cette cité, devaient en être, selon la belle expression de l'épître de Payerne, les gardes-enseignes sur la terre. Et, le tenant d'une main ferme, ils devaient être appelés, plus que d'autres peut-être, à le manifester en plusieurs pays. Tout annonçait que l'œuvre de la rénovation genevoise avançait, et pourtant elle avait encore de nombreux obstacles à vaincre et de grands travaux à faire. De puissants ouvriers allaient paraître pour les accomplir. Jusqu'à présent, le souffle de la Réformation est arrivé à Genève des plaines de la France et des montagnes de la Suisse. Les hommes de Dieu qui doivent le plus travailler à la transformation de cette cité, Farel en particulier, n'ont agi sur elle que du dehors. Mais encore 2 mois, et ce vaillant évangéliste entrera dans la ville des Huguenots. D'autres le suivront. Ils en ressortiront chassés par les amis de Rome. Ils y reviendront avec une décision nouvelle et travailleront avec un zèle infatigable jusqu'à ce qu'après de longues ténèbres, on y voie luire enfin la lumière de Jésus-Christ. L'antique cité n'a pas alors à lutter avec un seul parti. Elle est attaquée à la fois par 2 bandes contraires, assiégée d'un côté par l'évêque, de l'autre par les réformateurs. De ces 2 armées, quelle est celle qui l'emportera ? Genève, chose étrange, repousse à la fois l'une et l'autre. Cette ville serait-elle donc destinée à n'être ni du côté droit, ni du côté gauche, ni évangélique, ni romaine ? Il ne peut pas en être ainsi, et divers symptômes semblaient alors indiquer la solution prochaine. Le fanatisme du clergé genevois, le respect des magistrats pour les institutions existantes, l'énergie avec laquelle une partie du peuple repoussait la Réformation semblait indiquer que le mouvement dont Genève était alors agité aboutirait simplement à l'abolition du pouvoir temporel de l'évêque. Mais d'autres signes paraissaient annoncer un autre avenir. À mesure que l'amour de la parole de Dieu croissait dans les cœurs, on y voyait diminuer le respect pour la religion romaine. Les chrétiens évangéliques se disaient que le salut était une chose éternelle, tandis qu'un gouvernement, même ecclésiastique, n'était qu'une chose temporelle, que les droits de la vérité primaient toutes les prétentions cléricales et que l'autorité des Écritures était supérieure à celle de tous les pontifes. De plus, un nouvel élément paraissait. La société ecclésiastique était tombée dans le sommeil et dans la mort. Au XVIe siècle, la Réformation la réveilla et lui rendit la vie et l'activité. Farel est l'un des types les plus remarquables de cette animation chrétienne. Son dévouement sans bornes, ses infatigables travaux devaient, le bras de Dieu étant avec lui, lui assurer la victoire. Il est vrai que cette nouvelle force se tourna bientôt contre la Réforme. L'Église romaine se réveilla, s'agita, surtout après la fondation de l'ordre des Jésuites, mais son activité différa grandement de celle des réformateurs. Celle-ci descendait d'en haut, celle du clergé romain vint d'en bas. Quoi qu'il en soit, la papauté devint bientôt aussi énergique que le protestantisme. C'était un danger pour lui, peut-être était-ce aussi un bienfait. Si les adversaires étaient restés dans leur sommeil, la Réformation eût pu finir par s'endormir elle-même. Mieux vaut l'activité qu'une immobilité sans espoir. Qu'il y ait lutte seulement, par la lutte l'Église s'épure, le chrétien grandit et la cause de la vérité et de l'humanité triomphe. Genève allait connaître de telles luttes, plus qu'il ne l'avait fait, et l'action dans ses murs allait devenir de jour en jour plus chaude. Combat au dehors, combat au dedans, la Réformation naissante et la liberté antique, et pourtant nouvelle, verront encore se ranger contre elle l'évêque, le duc, l'empereur, les gentilshommes, leurs vassaux, les troupes savoyardes, plus des bandes italiennes aguerries et parmi ceux qui les commanderont, tels des meilleurs capitaines du siècle. En même temps, la bataille commencera au-dedans avec furie. La papauté, alarmée en voyant un de ses sièges les plus antiques gravement menacé, poussera un cri de colère. Tous les amis du sacerdoce romain se réveilleront, s'agiteront, combattront. L'opposition furieuse lèvera une tête irritée. Il n'y aura pas seulement des conseils secrets, des complots perfides, des prédications fanatiques, des disputes ardentes, mais aussi des tumultes dans les rues, des sergents armés s'efforçant d'arrêter la prédication de la parole, des canons braqués sur des places, des coups d'épée, des coups d'arquebuse, des coups de poignard, des prisons, des exils, des empoisonnements. À la vue de ces combats violents, de ces calamités répétées, La pensée de l'historien se trouble, elle s'égare peut-être. Il lui semble que les puissances des ténèbres déploient leurs forces dans cette vieille cité. Il croit voir cet être mystérieux qu'un grand poète nous montre dans des vers immortels, complotant la ruine du monde au moment où il sortait, souriant d'innocence et de gloire, des mains de son créateur, Satan, s'il faut le nommer par son nom, descendre comme jadis en Éden, jeter l'ombre immense de ses vastes ailes sur les Alpes gigantesques, leurs blanches sommités, leurs lacs calmes et limpides, leurs collines riantes, s'abattre sur les tours de l'antique cathédrale pour combattre les conseils du roi des cieux et s'opposer en répandant partout sa ruse et sa furie à la nouvelle création d'un monde nouveau. He wings his way directly towards a new created world, and mans are placed with purpose to essay if him by force he can destroy or worse by some false guile pervert. John Milton, Le Paradis perdu. Mais à tous ces efforts des ténèbres, les hommes de l'Évangile opposeront les armes resplendissantes de la lumière. Ils proclameront l'amour de Dieu. Ils annonceront l'œuvre de Christ. Ils publieront la grâce. Ils répéteront avec Jésus-Christ que la chair ne sert de rien, c'est-à-dire que les grandeurs d'une hiérarchie superbe, la puissance d'une royauté temporelle, la multitude de ses serviteurs en temps de contrée et sous temps d'uniformes divers, les pompes par lesquelles son culte cherche à captiver les sens, les oracles de ses traditions, revêtus quelquefois des séductions de la philosophie humaine, que tout cela est inutile, que la puissance est à Dieu, que le salut est dans la folie de la croix et que c'est l'esprit qui vivifie. Et grâce aux armes spirituelles qu'ils emploieront, deux ou trois humbles organes de la parole de Dieu dissiperont les conseils de leur redoutable adversaire, détruiront ses forteresses et abaisseront jusque dans la poudre les hauteurs qu'il élevait contre la connaissance de Dieu. Le rude Farel, le doux Viré, le faible Froment vaincront dans Genève les puissances de Rome, même avant que Calvin, le grand capitaine, y paraisse. Dieu prend les choses faibles de ce monde afin de couvrir de confusion les fortes, et il choisit celles qui ne sont pas afin d'abolir celles qui sont.